Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore incirconcis.
Dimanche dernier, la Suisse a dû voter sur une question un projet de loi du revenu inconditionnel. De revenu de base inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel? C'est un revenu qui est donné à toute personne, que la personne travaille à plein temps, à mi-temps ou autre, ou que la personne soit chômeur, volontaire ou involontaire. Et ça peut être cumulable, mais l'idée c'est d'avoir un salaire inconditionnel qui est versé à tout le monde. Et là, en l'occurrence, c'était 2300 euros par mois. Et là, vous dites, oui, volontiers. Ben oui, ils ont dit non. Et c'est intéressant de voir que la question, elle se posait en Suisse, mais elle s'est aussi posée ailleurs dans le monde, et elle se pose aussi ici en France. En France, on s'y intéresse parce que on se dit qu'avec le poids et la complexité des aides actuelles, et aussi dans la perspective des changements dans le travail, avec la numérisation, est-ce qu'il faut envisager quelque chose de beaucoup plus simple et qui peut-être va permettre de faire des économies? Maintenant, on reconnaît tous, et c'était mon cas, et j'imagine que c'est le vôtre aussi, avec une telle idée, on a quand même des questions. Déjà, d'où est-ce que vient cette idée? Qui l'a eue au départ? Et ensuite, est-ce que c'est vraiment une solution viable ou est-ce qu'on va enfoncer une nation dans encore plus de dettes? Est-ce que ça va encourager la paresse, la dépendance? Et de manière générale, quelles sont les implications d'une telle décision, d'un tel projet? Avec la présentation de la doctrine de la justification par la foi, c'est un peu le genre de question qu'on pourrait avoir. On se souvient que l'apôtre Paul, il a commencé son épître en présentant un double réquisitoire contre toute personne sous la justice de Dieu. Que ce soit des personnes qui vivent comme si Dieu n'existe pas ou des personnes qui sont très religieuses, selon l'apôtre Paul, tous sont coupables devant Dieu. Ils sont inexcusables. Mais dans un deuxième temps, dans le chapitre 3, la deuxième partie du chapitre 3, on a vu un grand mais. Il y présente une bonne nouvelle, l'évangile. Et là, la solution apportée, c'est le fait d'être déclaré juste devant Dieu, comme au bénéfice de la justice de Jésus, par la foi en lui, simplement par la foi en lui. La colère de Dieu contre notre péché est détournée sur lui à la croix, et par la foi en lui, nous pouvons être au bénéfice de sa justice. Et naturellement, conscient que ça va susciter toutes sortes de questions, l'apôtre Paul a voulu les anticiper avec des questions qu'il relève lui-même, des objections qu'il relève lui-même, et en particulier de la part des personnes d'origine juive. Les questions, on pourrait les paraphraser de la façon suivante. Est-ce que c'est une modification du projet initial de Dieu? Est-ce que c'est une invention récente de l'apôtre Paul? Est-ce qu'il invente tout ça? Et quelles sont les implications d'une vérité comme celle-là, ou d'une affirmation comme celle-là? Et on l'a déjà vu. Par exemple, c'est de se dire, mais un salut qui est offert par grâce, mais c'est trop facile. Est-ce que ce n'est pas encourager le laxisme? Est-ce que ce n'est pas encourager le péché que d'affirmer une chose pareille? Le passage que l'on va voir va justement, en quelque sorte, nous aider face à ces questions. Je vous suggère deux temps, en découpant le passage en deux parties. Quels sont les appuis de la justification par la foi? Et quelles sont les implications de la justification par la foi? D'abord, quels sont les appuis de la justification par la foi? Je parlais tout à l'heure de ce revenu de base inconditionnel. Et je lisais un article pour essayer moi-même d'y comprendre un peu plus. Et malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une idée toute nouvelle. On trouve des traces de ce revenu inconditionnel au XVIe siècle, XVIIIe siècle. Et en lisant l'article, j'étais surpris de voir deux noms, c'est prestigieux, de personnes qui soutenaient cela, Napoléon et Martin Luther King. On est surpris de voir des personnes, alors je n'ai pas pu vérifier si l'auteur a raison ou s'il y a des nuances à apporter. Mais en tout cas, l'effet, c'est qu'on est, ah bon, on est surpris. Ce n'est pas une nouvelle idée. Et en plus, c'est soutenu par des personnes qu'on dirait, en tout cas pour Martin Luther King, Napoléon aussi d'une certaine manière, mais recommandable. Et ici, l'apôtre Paul, c'est un peu pareil. Dans ce qu'il fait dans son texte, il cite deux noms qui ont un effet encore plus fort pour les lecteurs, pour les auditeurs. Il cite Abraham, David, le plus illustre patriarche et le plus illustre roi. Abraham, c'est le père de la nation juive. C'est lui qui a reçu les promesses de Dieu, promesses d'un territoire, promesses d'une descendance nombreuse, promesses d'une relation privilégiée avec Dieu, promesses aussi d'être une bénédiction pour toutes les nations. Quelqu'un de reconnu pour sa piété, son attachement à Dieu. Mais on voit aussi David, le roi, par excellence, le modèle, celui sur la base duquel tous les autres rois sont référencés en quelque sorte. En France, quand on pense aux présidents qui ont marqué la nation, on pensera par exemple à Charles de Gaulle ou à François Mitterrand. Mais pour les deux, ils ne font pas l'unanimité. Pour David, il était reconnu comme celui qui faisait référence pour tous les rois qui ont succédé. La référence, que ce soit dans son attachement à Dieu, dans les conquêtes, dans les réformes. Quel est l'impact pour les lecteurs? D'une part, dans la peau d'un auditeur juif, vous vous dites, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Si l'apôtre Paul dit vrai ici, en présentant cette doctrine, ce n'est pas une nouveauté, ça devrait nous rassurer. Dans la peau d'un auditeur non juif, on va se dire, mais par cette foi en Jésus, moi je vais être associé à un héritage qui remonte loin. L'apôtre Paul commence par Abraham et il soulève la question, mais est-ce qu'Abraham devrait être fier devant Dieu? Est-ce qu'il devrait être fier devant Dieu? Alors même si on est conscient que la fierté, ce n'est pas quelque chose qui est beau à voir, et j'imagine que chacun d'entre nous, on recherche une certaine humilité, il faut reconnaître dans le même temps qu'on a tous une fierté qu'on a du mal à cacher avec les autres. Que ce soit avec nos collègues, nos amis, la famille, on a de la peine à cacher notre fierté. Quand quelqu'un nous fait une remarque positive, que ce soit par les paroles qu'on va prononcer, par notre attitude, on a de la peine à cacher notre fierté. Je pense l'autre jour où j'allais chercher ma fille à l'école, et puis en me voyant, elle crie « Papa !» et elle court pour sauter dans mes bras. Et puis la maîtresse dit, elle est fière de son papa. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai rien dit. Autrement dit, c'est vrai. J'aurais pu dire, mais elle est très gentille. Ou c'est moi qui suis fier d'elle. J'aurais pu dire ça. Mais même un silence, ça peut communiquer la fierté. Même un silence. Devant les autres, on peut être fier. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se trouve devant le Dieu qui nous a donné l'existence, du Dieu dont on dépend pour tout ce qu'on vit, le Dieu qui nous connaît parfaitement, qui voit tout, qui sait tout de nous? Est-ce qu'on peut se montrer fier? Là, en l'occurrence, en imaginant Abraham qui se présente devant Dieu, est-ce qu'on peut l'entendre communiquer, soit par son attitude ou par sa pensée, ses paroles, « Je suis fier de la manière dont j'ai vécu. J'ai quand même vécu une belle vie, j'ai bien vécu. » L'apôtre Paul, il ne laisse pas planer le doute. Il n'y aura aucune fierté devant Dieu. Aucune raison pour Abraham d'être fier devant Dieu. En l'occurrence, Abraham, il n'a pas de quoi se vanter devant Dieu. Et l'apôtre Paul, il n'en reste pas à ce premier constat, il pose une question qui est importante à poser. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Il a commencé son passage en disant, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Il a une question, et là il en arrive à la... Pour avoir une réponse valable, eh bien il pose la question, que dit l'Écriture? Ça c'est l'instinct de l'apôtre Paul, que dit l'Écriture? Et ça déjà, ça devrait nous faire réfléchir. Quand on réfléchit à une conviction qu'on devrait avoir au sujet de Dieu, au sujet de nous-mêmes, au sujet de la foi, au sujet de l'éthique, quel est notre instinct naturel? Est-ce qu'on va faire appel à notre expérience ou à notre perception, notre ressenti? Est-ce qu'on va faire appel à un arrière-plan philosophique ou telle ou telle autre chose qu'on a lue? Ou est-ce qu'on va avoir le même réflexe que lui en disant « Que dit l'Écriture ?» Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais au final, c'est bien le crible de l'Écriture qui doit être mis en route pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et lui, il relève une citation au chapitre 15 de la Genèse, verset 6. « Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. » Est-ce qu'on peut relever dans cette phrase qu'il cite, c'est ce terme qu'il va répéter. C'est la première fois qu'il l'utilise, mais il va le répéter 7 fois dans notre passage, et même plus par la suite. Compter. Un terme comptable. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est-ce qu'il faut comprendre, par exemple, que la foi d'Abraham, elle est tellement belle, elle est tellement admirable, elle est de telle qualité qu'il faut la voir comme quelque chose qui est compté, qui porte du crédit à Abraham? Un acte de justice qu'il peut apporter à Dieu. Et il y a plusieurs éléments dans ce passage qui nous montrent que ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être le cas. D'une part, le contraste que fait l'apôtre Paul au verset 4, lisez avec moi. « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. » Il dresse un contraste entre quelque chose qu'on mériterait et quelque chose qu'on reçoit par grâce. C'est deux choses différentes. Et si on rentrait dans l'image de quelque chose qui est dû? Pensez au moment où vous recevez votre bulletin de salaire ou votre salaire versé sur votre compte. Est-ce que vous allez prendre votre plus belle carte et écrire à votre employeur le texte suivant? « Cher monsieur Intel, je viens de recevoir ma fiche de salaire et j'en suis bouleversé. Je tiens à vous dire ma profonde gratitude pour ce geste en ma faveur. Sachez que je suis ému, saisi par tant de générosité et de grâce de votre part. Sincèrement vôtre, et vous signez en dessous. » Vous imaginez écrire une carte comme ça? Vous imaginez quelqu'un de la CGT qui lirait votre carte? On n'écrira jamais une carte comme ça. Et si on écrit à l'employeur, c'est quand il n'a pas versé le salaire. Et ce ne sera pas une carte, parce qu'on estime que c'est un dû. On a travaillé et on reçoit un salaire. C'est normal, c'est légitime. Ici, l'apôtre Paul veut montrer que la justice qui est accordée, accréditée à Abraham, c'est une grâce. Et la suite, le texte le confirme. Prenez le verset 5, prenez cette petite expression, « Celui qui déclare juste l'impie ». Vous avez entendu ? Celui qui déclare juste l'impie. Il n'est pas en train de dire, vous auriez été d'accord avec l'affirmation, celui qui déclare juste, celui ou celle qui est juste, on aurait été d'accord. Non, celui qui déclare juste l'impie, ou autrement dit, le pécheur, le coupable. Il y a un paradoxe. Comment est-ce qu'il peut déclarer juste l'impie ? Abraham, donc, il n'est pas compté comme juste devant Dieu parce qu'il est juste en lui-même. Non, il reçoit une justice qui lui est donnée par grâce. Et ça se voit déjà dans le contexte de la Genèse, justement. Abraham, il n'est pas présenté comme quelqu'un qui est irréprochable. Il est prêt à mentir quand il s'agit de décrire sa femme, parler de sa femme, et il va mettre sa femme en danger. Il témoigne en même temps qu'il n'a pas de la foi en Dieu, dans les promesses de Dieu, et à plusieurs moments, il n'a pas cette foi en Dieu. La foi, ce n'est donc pas quelque chose qui était en quelque sorte tellement beau chez Abraham qu'il est juste devant Dieu. Non, c'est plutôt quelque chose qui lui est donné. Cette justice lui est donnée et il l'a simplement saisi par la foi. Il y a 15 jours, Matthieu a utilisé cette image qui est très parlante d'une invitation lancée à un repas. Vous êtes invité à un repas, la personne prépare un repas, vous invite, va vous chercher et vous y rendez. Est-ce que vous allez dire que ouais, j'ai quand même accepté l'invitation? Comme si vous méritiez ce repas, méritiez cette invitation? Certainement pas. De même, la foi, elle est simplement le moyen de recevoir quelque chose qui nous est donné, non pas à cause de notre justice, mais d'une justice qui est donnée. C'est vrai pour Abraham et c'est vrai pour tous les autres croyants. Pas sur la base de nos œuvres ou même de notre foi, mais simplement sur la base d'une justice que Dieu donne et que nous saisissons par la foi. Si on imaginait quelques instants, le moment où l'on va se retrouver devant Dieu, devant sa justice. S'il nous demandait la raison pour laquelle il nous reçoit, si vous posez à vous la question, pourquoi est-ce que je vous recevrai? Qu'est-ce que vous répondriez? Parce que j'ai essayé toute ma vie d'être un bon chrétien. Mais ça veut dire que vous avez placé toute votre confiance dans vos efforts, dans au moins vos tentatives d'être un bon chrétien. Mais ça, ce n'est pas en accord avec les Écritures. Est-ce que votre réponse ce serait « parce que je crois en Dieu et j'essaie de faire mon mieux » ? Déjà, parce que je crois en Dieu, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui en même temps veulent, par leur propre obéissance à des commandements, à des règles, être déclarés justes par eux-mêmes devant Dieu. Et ce mélange de foi et d'œuvre, au final, il y a bel et bien un effort à faire pour être juste devant Dieu. Ce n'est pas en accord avec l'Écriture. Votre réponse, ça sera peut-être « parce que je crois en lui de tout mon cœur ». Mais là, l'accent, il sera mis sur quoi? Il sera mis sur la qualité de votre foi, son intensité. Et là encore, c'est regarder à vous-même plutôt qu'à lui. Ce n'est pas en accord avec l'Écriture. L'Écriture, elle nous invite plutôt à répondre « je suis déclaré juste ». Sur la base de la justice de Christ que je saisis par la foi, tout en étant pécheur. Je suis déclaré juste sur la base de la justice de Christ par la foi en lui, tout en étant pécheur. Et peut-être qu'on a de la peine à accepter de cela. Peut-être qu'on a de la peine à se dire, mais moi je devrais être vu comme pécheur et impie. Moi je devrais contenté d'une justice que je reçois, je ne peux pas par moi-même être juste devant Dieu. C'est là que le deuxième exemple de l'apôtre Paul révèle toute sa force. Quand j'ai parlé des deux grands noms de l'histoire d'Israël, je ne sais pas quel a été votre sentiment, j'imagine qu'il y a au moins une ou l'autre personne qui s'est dit « David ?» David ? D'accord, David, ça a été un grand roi, mais il a quand même des taches sur le tableau. Commis un adultère avec Bathsheba, il a tué son mari, fait tuer son mari, Uri. Et puis bon, sur le plan familial, c'est pas très glorieux. Qu'est-ce que Paul va dire de David ici? Écoutez-le bien. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » David était bien respecté pour sa piété, son attachement à Dieu. Mais remarquez qu'il n'est pas en train de dire « Heureux ceux qui ne pêchent pas. Heureux ceux qui obéissent à la loi et qui marchent par la foi, de sorte de ne pas pécher. Heureux ceux qui ont une foi exemplaire, vibrante. » Non, on retrouve ce même terme comptable. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. On retrouve ce même paradoxe qu'on avait vu tout à l'heure. L'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Et la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce qu'on connaît ce bonheur-là? Est-ce qu'on connaît ce bonheur-là de se savoir pardonner? Ou est-ce qu'on est allergique à l'idée même que l'on soit coupable? Beaucoup de peine à accepter qu'on soit coupable. À l'inverse, est-ce qu'on est dans l'émerveillement? L'émerveillement de ce qu'on est pardonné. Est-ce qu'on est suffisamment en sécurité pour pouvoir entendre des critiques à notre sujet? Ou est-ce qu'on doit constamment se justifier, expliquer pour détourner toutes ces critiques? Est-ce qu'on est prêt à venir à Dieu en lui disant « Sonde mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité » Ou est-ce qu'on est constamment en train de décrire ce que les autres font, expliquer comment nous, on est finalement juste et que Dieu ne voit pas vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'on est régulièrement heureux et relevé par cette grâce, par ce pardon qui nous est accordé? Ou est-ce qu'on est régulièrement miné suite à une remarque qui nous est faite, abattu à la pensée de souvenirs d'erreurs du passé, d'échecs du passé, miné et plombé régulièrement par ces pensées-là? David dit le bonheur de celui qui est en même temps pécheur et qui peut se savoir juste devant Dieu. Les deux en même temps. Martin Luther utilisait l'expression en latin « simulus justus et peccator », simultanément pécheur et juste, les deux devant Dieu. Pécheur, oui, mais couvert de la justice de Christ. Et ça suscite un profond bonheur. Quelles sont les implications de la justification par la foi? La deuxième partie, les versets 9 à 12. Et là, l'apôtre Paul fait un lien avec ce bonheur dont il vient de parler, bonheur de David qui se sait pardonner. Et il pose la question, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? La circoncision, c'était important pour les Juifs. Symbole culturel, religieux, d'une appartenance à Dieu et à son peuple. Symbole fort. Et on le voit à différents endroits dans cette lettre. Il y avait, chez les personnes d'origine juive, une tendance à se croire, à se voir comme un peu plus juste aux yeux de Dieu, un peu plus acceptable devant Dieu. Après tout, est-ce qu'ils n'étaient pas descendants d'Abraham? Est-ce qu'ils n'avaient pas été circoncis? À l'inverse, on peut penser que certains chrétiens d'origine païenne pouvaient se dire par moments, est-ce que je suis un peu moins acceptable devant Dieu, inférieur par rapport à eux? Parce que je ne suis pas juif, parce que je ne suis pas circoncis. Et avant de les regarder de haut et de dire qu'ils n'avaient rien compris, on peut relever le fait que nous-mêmes, on a tendance à suivre ces mêmes penchants. Est-ce qu'on n'est pas tenté de penser par moments que pour une raison ou une autre, on est un peu plus acceptable que les autres aux yeux de Dieu? On peut être tenté par ce sentiment-là parce qu'on a une place bien en vue dans l'Église, ou parce que tout simplement on est joyeux, une journée où les choses se passent bien, on est joyeux et on a le sentiment qu'on est un peu plus acceptable aux yeux de Dieu, parce qu'on a des dons qui sont évidents pour d'autres, parce qu'on vient de faire quelque chose de bien, tout simplement, et on a ce sentiment d'être un peu plus acceptable aux yeux de Dieu. Par son parcours académique, par les relations, l'influence qu'on a, ce sentiment d'être un peu plus acceptable que les autres aux yeux de Dieu. Et à l'inverse, on peut aussi être tenté par un sentiment d'infériorité par rapport aux autres, se sentir un peu moins acceptable, peut-être parce qu'on n'a pas le même arrière-plan familial que d'autres, peut-être parce qu'on a moins d'années de vie chrétienne, peut-être parce qu'on a vécu une journée où on est le moral dans les baskets, on a le sentiment que rien ne va et les sentiments ne sont pas là. Comme Sophie le disait tout à l'heure, on a le sentiment que on est loin. Est-ce qu'on est à ce moment-là moins acceptable devant Dieu? On serait tenté de le penser. Et un même croyant peut, dans une même journée, passer de ce sentiment d'infériorité à un sentiment de supériorité. On en est tous capables, on peut balancer de l'un à l'autre. Mais une des implications de la justification par la foi, c'est précisément qu'on ne peut pas ajouter à la justice de Christ qui nous est donnée, accordée, comptée. Comment est-ce que l'apôtre Paul le fait pour le démontrer? Eh bien, il retourne à Abraham, il retourne à l'exemple d'Abraham dans ces versets. Après tout, c'est lui le père de la nation. C'est lui qui a reçu les promesses de Dieu. C'est lui, de lui que tous les Juifs sont issus. C'est lui qui, le premier, a été circoncis après tout. Et il pose une question au sujet de la, qui est en lien avec la justification d'Abraham devant Dieu. Verset 10. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce avant, après plutôt, ou avant sa circoncision? Et l'apôtre Paul le dira clairement, c'est alors qu'il était encore incirconcis, alors qu'il n'avait pas encore reçu cette circoncision, il a été déclaré juste. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Dieu n'a rien ajouté par cette circoncision pour qu'il soit déclaré juste. Les rabbins savaient qu'ils estimaient qu'il y avait à peu près 29 ans entre les deux moments qui sont décrits dans la Genèse. Mais Dieu n'a rien à ajouter pour le déclarer juste en le faisant circoncire par la suite, des années plus tard. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va ajouter en quelque sorte à cette justice qu'on reçoit? Est-ce qu'on réalise l'implication d'une telle pensée? Est-ce qu'on va ajouter quelque chose? Est-ce que Jésus ne suffit pas? Est-ce que sa justice, elle suffit pas? Est-ce que son œuvre de la croix, elle suffit pas? Est-ce que les promesses de Dieu ne suffisent pas? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va trouver quelque chose qu'on fait ou qu'on a et qui va un peu ajouter à la justice de Christ, à son œuvre à la croix, aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on va trouver quelque chose de ce genre-là pour ajouter à tout cela? On peut passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à penser à ce qui nous rend un peu moins acceptable ou au contraire plus acceptable. Mais est-ce qu'on réalise l'offense qu'on fait à Dieu? En lui disant qu'en fait, la justice qui nous est donnée à travers Jésus, elle ne suffit pas. Est-ce qu'on réalise aussi que c'est pas le fait de se... En faisant cela, on n'est pas en train de placer notre confiance en Christ, on est en train de la placer en nous-mêmes, on est en train de regarder à nous-mêmes et pas à lui. Il termine l'apôtre Paul en montrant que la circoncision pour Abraham, c'était qu'un gage, un signe, un symbole qui renvoyait à la fidélité de Dieu et aux promesses de Dieu. Pour nous, ce serait un peu comme regarder à notre baptême ou peut-être par la suite au repas du Seigneur en se disant « Je me suis fait baptiser, je suis un peu plus acceptable à Dieu. » Ou « Je vais prendre le repas du Seigneur, je serai en quelque sorte un peu plus acceptable à Dieu. » Mais c'est n'importe quoi. C'est oublier précisément ce que ces signes veulent symboliser. Un baptême doit symboliser précisément une œuvre qui a été faite à notre place, pas une œuvre que nous avons accomplie. Ce repas, il doit symboliser ce que Christ a fait pour nous, à notre place, et non pas ce que nous devons faire pour être rendus plus acceptables devant lui. Et la même chose quand on sent que le baptême est loin et qu'on n'éprouve plus cet enthousiasme qu'on avait au départ. Quand on se sent déprimé et qu'on se dit « je vais prendre ce repas et je ne ressens rien ». Est-ce que c'est à ça qu'on devrait regarder? On ne doit précisément pas regarder à soi, à ce qu'on ressent, à ce qu'on doit faire, ce qu'on est, mais à lui. Parce que ces symboles doivent renvoyer à lui, à ses promesses, à sa fidélité, à son œuvre, à sa justice. La justification devant Dieu par la foi en Jésus, elle est bien conforme à l'Écriture. Et dans ses implications, elle nous permet dans un premier temps de renoncer à toute fierté devant Dieu. Aucune fierté à avoir. On n'a pas non plus à vivre dans la honte et dans la dissimulation. On peut connaître le bonheur de se savoir pardonné. On n'a pas à vivre dans la comparaison permanente, le regard vers ceux qui sont à notre regard en dessous ou au-dessus. Cette justice, elle est parfaite en Christ et elle est simplement saisie par la foi en lui. Et nous sommes couverts par la foi, par cette justice de Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes nos pensées qui ne sont pas conformes à l'Écriture. Toutes les fois où nous voulons être vus comme justes à tes yeux par autre chose que la justice de Christ. Donne-nous d'avoir confiance que de tout temps et toujours, c'est par une justice qui a été donnée, accordée, une justice dont Christ s'est porté garant, que nous sommes déclarés justes devant toi. Et nous le saisissons simplement par la foi. Te louons pour cela. Donne-nous le bonheur de nous savoir, en même temps pécheurs, c'est vrai, mais déclarés justes devant toi. Au nom de Jésus. Amen.